Tov. Boker Tov. Mechila pour le retour, pour le retard. Ouais. Bezrat Hashem, le cours, il est dédié à la refoua shlema de Sylvie Mesouda Chaya Bat Esther. Kakadosh Baruchou Bemet, il ait pitié d'elle et qu'il fasse que, si Dieu veut, Bisrout le Tzadik, elle va Bezrat Hashem guérir. Amen, Kenny Ratson. Esther Bat, Jacqueline aussi, Bezrat Hashem. Chana Bet Esther, Bezrat Hashem. Jennifer Acheli Chana, Chaya, Bat Florence Frecha, Bezrat Hashem, Refouat Agouf, Refouat Anefesh. Daniel Hanoun, Ben, Chana, Bezrat Hashem, Refouat Agouf, Refouat Anefesh. Et Keren Bat, Louisa, Refouat Agouf, Refouat Anefesh, tu arrives à l'heure. Aujourd'hui, tu vois. Chaya Mouchka, Yael, Bat Elisheva, Yael, Bezrat Hashem. David Ben Fortuné, Bezrat Hashem, pour tout le Ham Israël qui est Refouat Agouf, Refouat Anefesh. Alors, on est. On est dans le dernier jour du Chok Breslev du mois de Hadar. Ce soir, Bezrat Hashem, Rosh Chodesh, Nissan. C'est la Niv de Rabbeinu Akadosh, Bezrat Hashem. Alors, pour celles qui ont la possibilité, d'abord à Shrechem, celles que leur mari parte, Baruch Hashem, qui reviennent Béchalom avec plein de Yeshuot. Et pour toutes, n'oubliez pas, pour celles qui n'ont pas l'habitude, d'allumer le nerf de Rabbeinu ce soir et de vraiment faire une petite séouda, de danser, de demander tout ce que vous voulez. Rabbeinu, il a dit qu'en général, quand c'est l'anniversaire d'une personne, tu lui amènes un cadeau. Il a dit, mais quand moi, pour le jour de mon anniversaire, c'est moi qui te donne des cadeaux. Donc, il faut vraiment pas hésiter ce jour-là à demander à Rabbeinu Bezrat Hashem. Ce soir, à partir de ce soir, voilà, joyeux toujours, mais bon agit que tu fais en plus, et Bezrat Hashem.
Et si on a allumé une veilleuse qui est déjà allumée depuis 3 jours ?
Non. Ah, ben non, si elle est allumée, elle est allumée.
Elle n'est pas allumée la soirée.
Non, si c'est aligné pour lui, c'est pour lui. Peut-être qu'elle fait un grand truc.
Ah ouais.
Ok, alors, les copines, on est dans le Likouté Etzot. Alors là, maintenant, on est passé dans les marchavot, les pensées et les fantasmes.
Ah ouais.
Ouais. Carrément. Alors, venez, on va voir ce qu'il nous dit ici, Rabbeinu. Lorsqu'un homme... C'est une sikhat raverim, hein, vous n'oubliez pas. Donc on peut parler. Lorsqu'un homme fait pénétrer à l'intérieur de son intellect des pensées extérieures, alors la sainteté de son intellect se restreint en fonction de la place occupée par la pensée endommagée qu'il a fait entrer dans son esprit. Autour de cette pensée altérée se rassemblent et s'unissent tous les défauts et les désirs mauvais et répugnants. Donc ici, il dit comme ça Rabbeinu que un homme, quand il rentre à l'intérieur de lui-même, des pensées étrangères à quoi ?
À la Torah.
À la Torah, à Hachem, d'accord ? Des pensées qui sont étrangères quelque part à lui aussi, puisque l'homme, c'est quoi ? L'homme, c'est une partie d'Hachem, d'accord ? Donc, il dit comme ça que ces pensées-là, elles rentrent à l'intérieur de ton intellect, d'accord ? Et elles prennent en fait de la place. Imaginez-vous, moi, pour me faire la facilité, je m'imagine toujours comme une boîte. Tu vois, une boîte, et je me dis, bon, bah, quand tu rentres des pensées, dans cette boîte, ça prend de la place, d'accord ? Et cette place, là, en réalité, elle gratte, si tu veux, sur le bon. Et donc, automatiquement, ça vient et ça commence à endommager, on va dire, ton intériorité. Et ça fait maintenant, ça va faire que ça va t'emmener vers des mauvaises pensées, et des mauvais désirs. On va voir comment il avance. Il dit comme ça, il dit donc qu'il en ressort que toutes les altérations, toutes les fautes et les péchés, chas v'shalom, tous ne viennent qu'en raison d'un dégât occasionné à la pensée. Vous remarquez combien Rabbeinu, à chaque fois, il nous fait passer par cette étape de la pensée et combien, en réalité, tout se passe dans la pensée. D'accord ? Et qu'un homme, en réalité, son monde, c'est sa pensée. Donc, si dans ta pensée, tu fais rentrer des mauvaises pensées ou des idées extérieures. On va y arriver dans quelques instants, d'accord? Donc tu vois que automatiquement ça va t'emmener à des avérotes. Parce que comment les avérotes elles viennent? Il faut que tu y aies pensé déjà. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit rentré. Il faut que tu aies laissé rentrer. C'est que tu as eu une porte ouverte quelque part, d'accord, à des possibilités. Ce n'est pas comme ça. Vous êtes d'accord
mais
ou pas?
Non, mais comment ça veut dire quoi la porte ouverte?
Bah, si maintenant, par exemple, une personne, elle ne se protège pas, elle ne sait pas faire le birour. Si tu ne sais pas faire ton birour et tu ne te dis pas, mais ça, non. Ça, oui, c'est-à-dire, tu comprends? Par exemple, Rabbeinu, combien il a parlé, combien c'était grave et combien il fallait complètement s'éloigner de la philosophie. Quelqu'un qui pachoute, d'accord, ne fait pas attention à ça ou qui n'écoute pas et dit non, moi j'aime la philosophie. Tu laisses la philosophie, mais la philosophie, elle va t'emmener en réalité, d'accord, à des pensées hérétiques à la finale. Elle va t'emmener vers des choses terribles. Alors maintenant, on va dire que nous, on n'est peut-être pas toutes des grandes philosophes. Ok, alors on va aller sur des choses qui nous touchent plus. Quand tu rentres sur des réseaux sociaux, des Instagram, et que tu commences à regarder ce qui se passe chez les gens, d'accord? Automatiquement, tu laisses rentrer des pensées extérieures à toi. L'autre, comment elle s'habille, l'autre, comment elle a mangé, l'autre, comment elle s'est bagarrée, l'autre, comment elle est partie en vacances, l'autre, j'en sais rien, tout. Tu laisses des pensées extérieures rentrer à toi. D'accord? Donc, automatiquement, si c'est rentré en toi et que toi, tu n'as pas tout de suite dit non, tu n'as pas éjecté la chose parce que tu t'es pas dit, mais ça, c'est danger pour moi. Non, je ne veux pas. Automatiquement, ça rentre en toi. Ça fait son chemin. D'accord? Il n'y a pas de souci. Le littéraire, il a le temps. Ça fait son chemin et ça t'emmène doucement, doucement à changer ta marche avant. Ta façon de penser et ta façon de faire à la finale.
C'est comme ça que la normalité devient de l'anormalité.
Bidouk. C'est exactement comme ça. D'accord? Et que, à la finale, cette anormalité, c'est devenu aujourd'hui, dans le monde entier, celui qui est, entre guillemets, qui reste dans le chemin de la Torah, on le regarde un petit peu comme quelqu'un d'extraterrestre. D'accord?
Mais j'ai une question.
Oui.
Des gens qui sont éloignés vraiment. Est-ce que le guide des égarés, ça ne peut pas aussi éventuellement...
Laissez-la parler, la malheureuse. Finis ta phrase, mamie.
Parce qu'il y a des gens qui cherchent la vérité.
Oui.
D'accord. Ils ont lu, ils ont écouté, ils ont lu, on va dire, le Coran, le machin, voilà, les juifs, je parle. Hein. Et est-ce que le guide des égarés, moi, je pense, parce que c'est quand même des gens qui sont assez... c'est pas des gens... ils ont quand même fait des études et tout ça, qui réfléchissent. Le guide des égarés, éventuellement, moi je pense que ça pourrait, pour moi, hein, déjà leur montrer qu'avec Maïmonide, il peut aussi éventuellement déjà contrer justement, parce qu'il contre en fait la philosophie par rapport à la Torah.
Ouais.
Je pense que ça peut être aussi une porte, on va dire, pour avoir un discernement, tu vois, pour enlever un petit peu le shaker.
Sûrement, ce que tu dis, ça aurait pu être vrai, sauf que...
Mais après,
attends.
Il a le libre arbitre de se rapprocher. Parce que s'il cherche quelqu'un, cherche le maître, Hachem va l'emmener. Tu vois ce que je veux dire?
Mais Arouz, tout ce que tu dis, ça aurait pu être vrai, sauf que, imagine-toi, manque de peau, manque de peau, Rabbeinu a parlé sur le guide des égarés.
Je sais.
Et il a dit, livre à prendre et à mettre à la Gnisa, à sourd de l'ouvrir, à sourd de le lire, à sourd.
Attends, Yael, alors du coup, j'ai une question.
Le Rambam, il a fait d'autres écrits et Rabbeinu, il le cite, il n'y a pas de problème. Le guide des égarés, en particulier, c'est Rabbeinu, tu sais qu'il n'a pas parlé sur beaucoup de livres.
Oui.
Alors, si Rabbeinu, il te le dit, attends, excuse-moi. Si c'est marqué justement, Rabbeinu, il n'a pas parlé sur beaucoup de livres où il te dit celui-là, tu l'ouvres. Dafka, sur ce livre, Rabbeinu, il est venu et il t'a dit ce livre-là, tu ne peux pas l'ouvrir, tu ne peux pas le lire, rien.
Mais
je vais t'expliquer quelque chose.
J'ai une question, il y a une chose que je ne comprends pas. C'est que Maïmonide, c'était un grand, c'est quand même un
sadique.
Il n'a pas discuté là-dessus, Rabbeinu. Il t'a dit ce livre-là spécifiquement.
Peut-être parce qu'il n'est pas assez fort et assez puissant, que ceux qui vont le lire vont être encore plus égarés.
Parce que Rabbeinu, il te dit une chose.
Ils sont trop fragiles pour lire ce livre.
Je suis d'accord.
Lui, il les protège, mais après, s'ils veulent le lire,
je remets en question ce qu'il dit Rabbeinu, parce que s'il le dit, il a des raisons.
Moi, j'adore Manoïde.
Mais je veux dire, c'est quand même étonnant que de la part d'un grand qui était. C'était un grand quand même.
Bien sûr.
Donc, comment est-ce qu'il. Il savait pas que ça pourrait encore plus induire de.
Tu sais, il y a une massorette. Sans blesser personne. Sans blesser personne. Chas v'chalila, d'accord. Et c'est bête qu'on va commencer à rentrer là-dedans, parce qu'on ne va pas avancer, mais c'est pas grave, c'est une sikha traverim.
On avance partout.
Attends, je vais te dire, sans blesser personne, il y a une massorette. C'est quoi une massorette ?
Un décret.
C'est une tradition.
Tradition.
Il y a une il y a une tradition chez Breslev qui raconte comme ça que le Rabbeinu, il a rencontré le Baal HaTanya, qui a écrit le Tanya, d'accord ?
Donc c'est la Noazakel.
Oui. Et il est venu, il a venu visiter Rabbeinu. Bon, c'est écrit dans le livre, hein, Rabbeinu. Alors, peut-être pas ce que je vais vous dire, mais il a parlé avec Rabbeinu. Rabbeinu l'a laissé parler. Et il y a une massorette qui dit comme ça, où il lui a parlé, bien sûr, de son livre, entre autres, et d'autres, beaucoup d'autres choses. Et Rabbeinu lui a dit, jusqu'au paragraphe 6, à partir du paragraphe 6, je crois, tu t'es trompé. Okay. Donc ça veut dire que, par exemple, tu vois, c'est des choses claires. Le Tanya, à partir du paragraphe 6, chez Breslev, si déjà, Nagit, que tu veux lire le livre, à partir du paragraphe 6, tu ne peux plus le lire. Pourquoi ? Parce que Rabbeinu l'a dit, il s'est trompé.
Et,
il
a, et, du Tanya
ouais. Et le Baal HaTanya, je t'ai dit à partir du paragraphe 6, après, oui, après le paragraphe 6, il s'est trompé. C'est pas moi qui le dis, donc on est nous, hein, on peut pas discuter. C'est Rabbeinu, c'est une massorette. Ça veut dire que et le Baal HaTanya, il a pas dit quoi que ce soit. Tu comprends ce que je veux te dire?
Il a pas changé.
Les personnes non.
C'est une massorette. C'est non. Après chacun son truc, tu vois.
Tradition.
C'est pas une tradition. C'est quelque chose qui se massorette, c'est une tradition. C'est-à-dire c'est une parole, c'est une parole qui se répète dans si tu veux. De la bouche à la bouche, c'est pas quelque chose qui est vraiment écrit, tu comprends ?
Il y a que Rabbeinu qui a contré ça ou il y en a d'autres côté du David Rabbeinu ? Il n'y a que lui en fait.
Écoute, après, tu sais bien que les anti-chassidim, bien évidemment, que Bichlal, tout ce qui est chassidoute, même le Baal Shem Tov, ils l'ont discuté. Quelqu'un qui est anti-chassidoute, il va prendre déjà à la base. Le Baal Shem Tov, c'est pas bon. Tu comprends ?
Tous les rabbinis, ils prennent ce qu'ils arrangent.
Donc,
comment le rabbi de Lubavitch.
Non, moi je ne parle pas du rabbi de Lubavitch, Chas v'Shalom, je te parle d'une histoire qu'il y avait à l'époque et je n'étais pas là-bas. Je te répète une massorette.
Non, mais le rabbi étudie le Tanya.
Non, parce que je ne voulais pas rentrer là-dedans, tu comprends.
Ouais. C'est pas grave, on passe.
Ou alors continue.
Mais attends, quand même, pour finir ce que tu as dit, parce que c'est Rachouf, Rabbeinu, il a dit comme ça qu'il y a. En réalité, je vais vous expliquer une chose. Je n'ai pas lu le guide des égarés puisque mon maître il m'a dit de ne pas lire, donc je ne lis pas. Mais je te dis Stam, quand tu parles avec un hérétique, d'accord, avec quelqu'un qui est complètement, qui est contre, machin, Rabbeinu il te dit, ne lui réponds même pas, c'est même pas la peine de discuter. Pourquoi ? Parce que la base, c'est quoi la base de notre Torah et de notre religion ? C'est la foi. Donc, même si maintenant tu prends un livre qui va venir. Et il y a aujourd'hui des rabbanim, ils sont spécialisés là-dedans. Ils t'expliquent A plus B. Il t'explique à bus B pourquoi ça et pourquoi ça. Mais Rabbeinu, il te dit, mais écoute-moi, à un moment donné, tu vas buter. Il n'y a pas de réponse. Alors là, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas dire, ah ben alors, puisqu'il n'y a pas de réponse ? Non. La base, d'abord la Emouna. Tu comprends ce que je veux te dire ? Et puis, à force de venir et de parler, encore une fois, ce n'est pas tout le monde qui peut parler avec quelqu'un, ce qu'on appelle un hérétique. Ce n'est pas tout le monde. Et vous savez que Rabbeinu, celles qui ont lu l'histoire de Rabbeinu, il était, à l'époque, quand il était arrivé à Ouman, et même dans beaucoup d'autres endroits, quand il était à Lemberg, à Brody, c'était là-bas des endroits laouriques. Il jouait aux échecs avec eux. Et il parlait avec eux. Et si Rabbeinu, il avait vécu un petit peu plus longtemps, ces gens-là, il les aurait ramenés à la tchouva. Mais ça, c'était Rabbeinu. Nous, on n'a pas toujours le poids. Donc, il faut aussi savoir, de temps en temps, entre guillemets, rester à sa place.
Mais alors j'ai une autre question.
Oui.
Si la personne qui était très loin, qui lit le guide des égarés, qui cherche vraiment le maître, il va aller chercher après dans la Torah, puisque c'est maïmonide. Tu comprends ce que je veux dire?
Moi, je ne sais pas. Voilà, chacun son derrière, encore une fois. Tu comprends ce que je veux te dire? Peut-être, je ne sais pas. Moi, je te dis juste...
Il va aller plus loin, il va justement après étudier maïmonide, il va commencer à chercher et arriver...
Alors, je vais... Je vais t'expliquer une chose. Je vais t'expliquer...
Il n'y a pas de réponse.
Et puis,
il doit avoir une réponse quelque part, mais ils vont pas finir la phrase peut-être de pas
le. Et je vais te dire, et je vais te dire quelque chose. Très souvent, tu vois des personnes qui, comme tu dis, ils vont comme ça chercher machin, mais leur Torah, très souvent, parce que j'ai eu l'occasion de parler avec beaucoup de personnes dans ce style, leur Torah, elle reste très rationnelle. Très limitée, leur avodat Hashem, elle est très limitée, et en fait, si tu veux, ils sont dans leur carré, et à un moment donné, quand tu veux les sortir de leur carré, ils ont énormément de mal, parce qu'eux, ils ont besoin, tu vois, de choses, voilà, c'est des cartésiens, mais la Torah, c'est tout sauf cartésien.
Et Rabbeinu, quand il a dit ça, peut-être qu'il a dit par rapport à chaque personne, c'est très dangereux de dire à quelqu'un, lisez ce livre.
Attends,
il n'est pas... Voilà, il faut chaque personne le guide des avec son niveau.
Non, mais Rila Gila, je suis là-dessus, je suis très, très ferme. Rabbeinu, il a interdit de lire le livre pour tout le monde.
Mais il a interdit en sachant peut-être qu'il a dit de ne pas le lire parce qu'il y a des gens, en le lisant, ils vont pire encore. Peut-être qu'ils ne vont pas comprendre exactement. Peut-être qu'ils vont aller encore, s'ils faisaient un minimum, ils ne vont rien faire du tout. En fait, il l'a interdit parce qu'il sait pourquoi il l'a interdit, c'est ça que je veux dire.
Oui, bien sûr.
C'est ça que je dis.
Ouais.
C'est pas...
Ah oui, oui. Tu sais, dans le livre, là, l'écoutez-moi. Ouais.
Attends.
Il l'a dit parce que lui, il doit savoir pourquoi il l'a dit.
Mais juste pour être clair, il ne faut pas apprendre le Tanya.
De toute façon, Rabbeinu. Non, mais c'est pertinent, mais Batsheva, Rabbeinu. Il avait tout, lui. Toute la Torah, elle est inclue dans le tzaddik. Tu comprends ce que je veux te dire? Oui, j'ai compris. Lui, il inclut tout. Bien sûr.
Dans le Chag V'Esther de Shabbat, ce Shabbat, c'est de Shtarmia Vada. Donc, il y a écrit que dans Sirot Aram, il me semble, qu'en fait, Rabbeinu, il s'est inspiré d'un livre que le Rav, il écrivait une tefila. Ouais. Tu l'as lu ou pas?
Oui, c'est
pour le Likutei Tefila. Il a dit qu'il fallait faire une tefila par Torah.
Donc, Nahon.
Rabbeinu, il a dû lire tous les livres qu'il y avait avant sa génération. Moi, d'après moi, il a dû...
Ouais. Il devait être branché avant.
Mais tu vois ce que je veux dire?
Oui,
il s'est dit que cette personne, elle faisait une tefila pour la Torah, et c'est là qu'il disait il faut absolument faire...
Aussi sûrement parce que quelque part, je pense que Rabbeinu, il savait qu'à la fin des temps, justement, il fallait être tout sauf cartésien, parce que sinon on allait se buter à un mur et qu'on n'y arriverait pas. Alors, on va continuer quand même. Il disait comme ça, donc, que... Toutes ces pensées extérieures à la sainteté, d'accord, ça emmène donc l'homme, chas v'shalom, aux fautes et aux péchés, que Dieu nous en préserve. Et il dit, tous ne viennent qu'en raison d'un dégât occasionné à la pensée. C'est pourquoi chacun doit préserver beaucoup son intellect et sa pensée, afin de ne laisser pénétrer dans sa pensée aucune idée extérieure, ni aucune sagesse extérieure. Donc là, Rabbeinu, il vient, il te donne une etza, il te donne vraiment un conseil, il te dit, écoute, si tu veux te préserver et si tu veux préserver ton âme, tu dois faire très attention, d'accord, à ce que tu vas regarder, à ce que tu vas faire rentrer en toi, parce que on voit que en réalité, les idées extérieures, les pensées extérieures, toutes ces choses-là, toutes ces sagesses extérieures à la Torah, doucement, elles vont entraîner, d'accord, une détérioration. D'ailleurs, tu le vois, depuis, d'accord, qu'il y a eu la perte du Beth Amikdash jusqu'à aujourd'hui, c'est pas la même chose, d'accord? Ça veut dire on s'est beaucoup éloigné et malheureusement il y a énormément de filtres qui se sont mis entre nous et Akadosh Baruch Hu. Rabbeinu,
la sagesse, pourquoi?
Des sagesses extérieures, il te dit. Extérieures à la Torah. À la Torah, toujours et toujours des sagesses extérieures à la Torah.
Ça veut dire quoi, sagesse extérieure à la Torah?
Alors, déjà, moi je te dis, déjà il y a la
philo... Sagesse, c'est déjà un mot qui fait sage.
Ouais. Oui, parce qu'il te parle. Une connaissance. Regarde, tu sais quoi? Parce que c'est des traductions. En hébreu, c'est une connaissance. Okay. D'accord? Une connaissance en réalité extérieure. Un date, bidouk. Dès que tu fais rentrer une connaissance, d'accord, qui est extérieure à notre Torah et à la pensée de la Torah, d'accord, automatiquement, tu fais rentrer, ça veut dire quelque chose qui va venir altérer ton âme quelque part. La preuve, c'est, regarde, maintenant, il te dit comme ça.
Non, tout me dérange, c'était juste le mot sagesse. Si
c'est le da'at, c'est une connaissance. Ouais, ouais, parce que c'est des traductions, malheureusement.
Et ça veut dire, par exemple...
Le monde extérieur, peut-être.
Avant, les femmes, elles s'habillaient qu'en jupe. D'accord.
Et en manche longue, ouais.
Et en jupe et en manche longue, ok. Avant, les années...
Elles avaient quelque chose sur la tête aussi.
Voilà. Et après, comment c'est arrivé? Alors que les femmes, elles ont
mis
des
jupes,
elles ont mis des pantalons.
C'est la libération de la femme.
La libération,
non, mais bien avant.
C'est la société.
C'est ça, ta.
C'est la libération. Il y a eu les guerres aussi. Il y a eu les guerres, les femmes, elles ont dû travailler.
Elles ont dû travailler. Est-ce que ça aussi, c'est le savoir? C'est la société qui nous a montré quelque chose, finalement.
À partir du moment...
Ça crée une liberté qui apparemment n'est pas une liberté, mais une soumission, un asservissement.
À partir du moment où on a eu, si tu veux, la grande fracture, c'est à partir du moment où il y a eu la destruction du Beth Amikdash qu'on a été, d'accord, c'est ce dernier exil, et justement, c'est cet exil de l'âme où on va dire qu'il y a eu une ouverture, doucement, ça s'est fait, c'est pas en 5 minutes. Il y a eu des ouvertures qui se sont faites, il y a eu le fait que aussi, tu sais, c'était à un moment donné, il fallait ressembler un petit peu aux autres peuples, d'accord, et automatiquement, dès que tu veux ressembler à quelqu'un d'autre, donc ça veut dire que tu perds, t'as un manque de confiance en toi, et donc tu veux apprendre de l'autre. Dès que tu veux apprendre de l'autre, en réalité, c'est un problème parce que c'est le peuple ou s'intégrer. Le peuple juif, en réalité, c'est la lumière du monde. C'est le monde qui doit apprendre de nous. C'est nous qui éclairons le monde. Il y avait marqué une fois, je ne sais plus, j'avais lu ça, que quand les goïms, ils sont contre nous, c'est pourquoi eux, ils ne le savent pas et c'est inconscient. Mais pourquoi? C'est parce que nous, on s'affaiblit quelque part. Donc, il y a eu une déperdition, si tu veux, à partir du moment où il y a eu la destruction du Beth Amikdash, il y a eu l'exil, cet exil qu'on vit jusqu'à présent, et cet exil, tout son travail, c'était quoi, justement? Doucement, par toutes sortes de moyens, d'accord, de nous infiltrer des pensées extérieures à notre sainte Torah. Chacun, on avait notre truc, mais on nous a fait sentir différents, on nous a amoindris, on nous a rentré en nous, tu vois, toutes sortes de doutes. Et le doute, c'est quoi? Le doute, c'est le plus grand Yetzer Hara. Parce que quand tu doutes, automatiquement, c'est ouvert, et là, on te fait rentrer tout ce qu'on veut. Tu comprends ce que je veux te dire? On a douté de nos rabbins, combien on a eu aussi des faux machiards, des machins, des histoires. Combien d'histoires on a eu qui ont fait que on a été cherché à l'extérieur?
Le vaudeur.
Et puis, il y avait le vaudeur, bien sûr, ça c'était avant. Et puis, encore une fois, doucement, il y a eu la, on va dire pour nous, nos générations, il y a eu la presse. Tu comprends? Il y a eu que le fait qu'aujourd'hui, le monde, il est devenu petit. Aujourd'hui, les médias, tu vois aujourd'hui ce qui se passe de l'autre côté. T'as la télé, t'as les machins. Tout ça, tu comprends? Mais déjà, on était en pantalon avant. Tu comprends ce que je veux te dire? Il y a eu, si tu veux, cette galoute à nefesh, cette galoute aujourd'hui de l'âme, c'est qu'on nous a laissé rentrer un doute et on va dire que Bémet, il y a aussi le fait que beaucoup, je pense, ça c'est moi qui le dis, c'est le fait que le tzaddik, quand il s'est dévoilé dans le monde, il y a eu une grande marloquette, ça veut dire une très grande opposition. D'accord? Et cette opposition, en réalité, n'a fait qu'aggraver le cas, d'accord, du peuple juif. Puisqu'il y a marqué que si le monde entier, il venait et il s'annulait devant le tzaddik, automatiquement, il y aurait le Mashiach aujourd'hui.
C'était lui le Mashiach?
D'accord?
Non.
J'ai pas dit si c'est qui ou quoi, je te dis le tzaddik. Je te parle du tzaddik.
C'est sûr, non. C'était annulé devant lui. C'est
devant le tzaddik.
C'est-à-dire que c'était lui?
Non, devant la pensée du tzaddik, nous on ne sait pas. Non, mais on peut pas savoir. Non, le tzaddik, il a dit que c'était lui. Mais le Mashiach, on ne sait pas. Nous, on n'y est pas encore. On va pas commencer.
C'était lui le Mashiach.
Non, lui, il a dit qu'il était le tzaddik.
Ah, le tzaddik, le messager peut-être.
Il est descendant de
David. David Améler, ouais.
Ça, parce qu'on va pas. J'adore Rabbi. Donc, vous allez mais il y a plein de choses que j'ai appris avant.
Non, mais encore une fois, Gila, je t'explique quelque chose. Gila,
j'adore, j'ai appris, j'adore, je découvre. Moi, je ne savais même pas qu'il existait.
Bah, c'est vrai, c'est magnifique.
Je vous dis la vérité, moi, j'ai grandi au Maroc.
Mais nous non plus, on n'a pas, on ne connaissait pas avant.
Quand j'appelais Narman, c'était parce qu'il venait danser, il mettait de la joie.
Moi, quand j'avais 20 ans,
c'est des Narman, alors je les appelle, ils mettaient à chaque fois qu'il y avait une fête.
J'avais 20 ans,
mais c'est beau, hein, il y a plein de...
Il y a...
Moi, je croyais que Rabbi Nachman, c'était Rabbi
Israël. Est-ce qu'on se
souvient de l'idée,
Rabbi?
Est-ce qu'on se souvient de la photo?
C'est toi qui m'as...
Quand tu auras ma chia. On ne sera pas, peut-être.
Oui.
Sûrement, c'est tellement immense. L'histoire de Rabbeinu, ouais, l'histoire de Rabbeinu, que je te conseille véritablement. Attends. Par le feu et par l'eau, c'est l'histoire de la vie de Rabbi Nathan. Tu apprends Rabbeinu.
Non, mais après, il y a l'autre aussi, la vie de Rabbeinu.
C'est ça, c'est le Rabbeinu, c'est celui-là. Non, c'est, ils l'ont édité.
La...
C'est pas nous, on n'a pas fait. On non, a mais pas... mais il y a une, c'est une nouvelle édition.
Ils ont changé.
Mais regarde, je vais t'expliquer une chose. Je vais t'expliquer une chose, d'accord. À partir du moment où le tzaddik il est venu dans le monde, d'accord. En réalité, Akadosh Baruch Hu, le tzaddik, la notion du tzaddik, elle existe bien avant la création du monde, bien avant tout. Le tzaddik, c'est quoi? C'est l'émanation première d'Akadosh Baruch Hu. Sauf que le tzaddik, il s'est, on va dire, dévoilé, d'accord, en chair et en os, si on peut dire. Hachem, il nous l'a envoyé quand il y a eu Rabbeinu. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres tzaddikim, Gila, je te l'ai déjà dit.
Non,
il y a des tzaddikim et il y a des déotes.
Il y en a plein.
Mais
on apprend de tous les tzadikim.
On apprend de tous les tzadikim. Et chacun, il a son
derrière.
Mais ce qui est certain, c'est que le monde, en réalité, ne pourra arriver et n'arrivera qu'à sa finalité, d'accord ? Et on le voit aujourd'hui comment ça marche, qu'à partir du moment où le monde entier sera complètement attaché à Rabbeinu. Voilà, il faut le dire une fois pour toutes. Après, t'es d'accord, t'es pas d'accord, tout ouais. Ce que tu veux. Rabbeinu, il te dit, d'accord ? Dans Sichot Aran, il te dit en réalité, c'est quoi le travail si vous voulez, la semaine prochaine, je vous lirai la lettre, tu sais, de Méron. Elle est écrite tout en entier, ce qu'on l'avait lu, nous, dans le Sidour,
ouais,
mais elle n'est pas en entier. Je l'ai en entier, il manquait pas mal de passages, c'est très très beau d'ailleurs. Et Rabbeinu, il dit comme ça, il dit, moi en réalité... J'emmène le peuple juif à servir à Kadosh Baruch Hu avec le cœur, je leur fais la réparation, je leur fais toute la réparation pour les emmener justement chez Kadosh Baruch Hu. Donc, Rabbeinu, si tu veux, il t'emmène en fait à la tchouva. Sans la tchouva, d'accord, sans la réparation du tzaddik, t'es pas encore arrivé en réalité à ta finalité. C'est ça toute l'histoire, tu comprends? Donc après, chacun,
Mais moi aussi, moi, ce que j'ai appris dans mes mots à moi,
je vais
vous expliquer si ça ne dérange pas.
Pas du tout.
Et ce qui m'a éclairé aussi quelque chose, c'est que tous les tzadikim, ils sont venus et ils ont tous fait une mission qu'ils ont dit la mission qu'ils sont venus. Ils sont venus pour construire quelque chose, pour faire des livres, pour construire quelque chose.
Finalement. Chacun, il avait son truc, bien sûr.
Quelque chose dans la Torah qui a 70 facettes,
bien sûr.
Ramener des explications dont tout est bon, toutes les explications sont bonnes à prendre, etc. Mais Rabbi Nachman, quand il est descendu, il n'est pas descendu pour construire. Il est descendu, il a dit, bon, il y a beaucoup de constructeurs, moi, je vais venir réparer. Et il n'y a aucun autre tzaddik, aucun autre, hein, je veux vraiment chercher,
oui.
Qui est descendu et qui a dit, moi, je veux réparer.
Et réparer quoi?
Réparer la neshama.
La neshama.
Tu comprends, c'est-à-dire qu'à un moment donné, nos neshamas...
C'est pas un outil, la neshama, c'est réparer...
Notre neshama, on a besoin de la réparer.
C'est le but de notre vie, c'est de réparer notre neshama.
Tout le but d'une vie, c'est de réparer sa neshama.
Réparer la neshama et le monde. Et le monde, emmener le monde à sa réparation finale.
Tu comprends?
Tu connais, voilà.
Je me rends compte que tous les rabbinim ils parlent de la Zimba. Alors qu'avant, je ne faisais pas attention.
Tu sais que même Baba Salé, il a parlé de Rabbeinu.
Mais avant, je
Et tu sais que beaucoup de ces...
Je pensais que c'était Rabbeinu, un des Rabbeinu, tu vois. Je ne savais pas que c'était lui. Mais maintenant, quand je vois...
Mais même tous les rabbinim, en fait, font des chouvas, quand ils vont tous Rabbeinu.
Ils n'ont pas le choix. C'est ce qu'il te dit, Rabbeinu. Aujourd'hui, tout le monde, pour passer par la case... Tchouva Behemet, Tu es obligé de passer par Rabbeinu. Tant que tu n'es pas passé par Rabbeinu, tu ne peux pas parler de tchouva, puisque la tchouva appartient à Rabbeinu.
Ça veut dire quoi ce que tu dis,
Tu comprends?
Je peux lui expliquer.
Oui, explique-moi, c'est une sikhat rabbinique.
C'est ce que je t'ai expliqué, c'est-à-dire que tous les rabbinim sont venus pour construire quelque chose, pour donner des idées, construire des choses. Et Rabbeinu, c'est le seul, mais le seul, et j'ai cherché parce que...
Tu es une grande chercheuse.
Je voulais chercher.
C'est une enquêtrice.
De toute façon, j'ai cherché, je lis beaucoup, j'ai cherché. J'ai pas trouvé un autre qui a dit « je suis venue réparer ». J'ai pas trouvé. Donc, sauf à la finalité, la teshuva, c'est aussi, c'est surtout la réparation d'un neshama.
Mais on peut se faire, on peut faire teshuva et on peut réparer notre âme, peut-être sans passer par là.
Tu peux pas. Justement, c'est pas la peine, tu peux pas.
Alors, explique-moi pourquoi.
Parce que Rabbeinu lui-même, il te dit, d'accord, personne ne peut faire tchouva sans lui. Il n'y a pas de réparation. Même nous, aujourd'hui, quand on fait des tfilotes, des machins...
Non, mais d'accord, en soi, c'est une entité extraordinaire. Mais qu'est-ce qu'il apporte? Il apporte un enseignement. Il apporte une conscience.
Bien sûr.
Il apporte une compréhension. Et donc, si on a guéri... Non, mais si on atteint cette compréhension et cette sagesse... par expérience ou par un autre apprentissage.
Tu peux pas.
Mais comment on peut dire
parce que c'est le tzaddik qui connaît, qui englobe toutes les âmes, qui peut réparer l'âme. Tu peux pas sans le tzaddik. Il te dit, Rabbeinu, il te dit, sans moi, c'est très difficile à entendre, je sais.
Oui,
mais il te dit, sans moi, tu ne peux pas arriver à la tshuva.
Mais sans lui par rapport au
l'Ikhlal. Tu sais quoi? Regarde, Nina Shamaim, va me chercher dans mon sac. T'as le sirot aran, amène-le-moi. On va changer de cours.
Mais ça par rapport au livre, la réparation de la nuit, il n'est plus là.
Mais il est tout. Non.
Mais c'est par rapport à tout ce qu'il a
mais écrit. Mais le tzaddik, il est toujours présent. Ah, pourquoi tu m'aurais dans mon sac?
Mais quoi, j'ose pas fouiller, moi.
Tu vois pas,
je suis en train de me dire, mais je sais pas.
Yael, non, mais je vais pas fouiller.
Il n'y a rien à cacher.
Non, tu vois, c'était
difficile. Nahon, regardez.
Non, mais je tiens quand même à dire aussi que Raph Citruc, franchement, que je sais pas comment dire.
Son âme, que son âme.
Repose
en paix, que son âme repose en paix.
Mais il nous a dit une chose à Kippour, on a fait avec lui au World of. Il a dit il faut que vous soyez conscient que les tzadikim, ils mentent.
Ben non, bien sûr.
Ah, mais ça,
si le tzaddik, il a dit tu m'enterres dans le désert parce que je veux qu'on vienne me pèleriner, il ment pas, il sait pourquoi. Si Rabbeinu, il a écrit tu dois passer par moi pour faire la réparation, c'est comme ça. Il a écrit, il ment pas. Moi, je pars du principe, il ment pas.
Regarde, on va, Sémina Shamaim Bémet, comme tu dis, on devait parler de Rabbeinu. De toute façon, on ne fait que parler que de lui. Mais je vais vous lire la lettre, si ça ne vous dérange pas, qui est complète. D'accord?
Elle
est... Alors voilà, c'est la rencontre avec Rabbi Shimon, Bar Yochai et Rabbeinu. Donc il y a marqué, comme... elle est complète. D'accord? En 1798, Rabbi Nachman de Breslev, Zichrono Livracha, arrive en Israël. Bien vite, il se rend sur la tombe du saint Anna, Rabbi Shimon bar Yochai, à Méron. Le récit qui suit, de haute teneur mystique, fut transmis oralement. C'est ça, tu vois, une massorette, c'est quelque chose qui est transmis oralement. Pendant près d'une centaine d'années, puis, il y a environ un siècle, Rabbi Avraham Sternatz décida de le mettre par écrit en employant la langue araméenne, celle qui fut utilisée par la rédaction du saint Zohar. Rabbi Avraham Sternatz était le petit-fils de Rabbi Nathan. Une traduction en hébreu fut réalisée plus récemment, mais la traduction française qui suit est basée sur l'original rédigé en araméen. D'accord ? Au moment où notre saint maître vint et pénétra dans la grotte de Rajbi, donc Rajbi c'est Rabbi Shimon, que son mérite nous protège, amen, entrèrent avec lui toutes sortes de bonnes odeurs et de précieux parfums, comme au moment où le Saint béni soit-il, où Hachem pénètre dans le jardin d'Éden, au milieu de la nuit, pour se réjouir avec les âmes des tzadikim. D'accord? Donc on voit qu'au milieu de la nuit, c'est Hatzot, Hachem y rentre dans le Gan Éden, d'accord? Et il se réjouit donc avec toutes les âmes des tzadikim. Tous les mondes furent illuminés, et les saints qui sont endormis dans la grotte sacrée s'éveillèrent. C'est alors qu'un messager céleste proclama avec force « Comment s'appelle ce saint tzaddik, fondement de tous les mondes ? C'est à lui que la permission a été donnée d'allumer les lumières sacrées et d'éclairer toutes les chambres du suprême roi saint, à celui qui est entré à présent dans cette sainte grotte. Vous imaginez,
c'est Rabbi Shimon qui dit ça.
C'est une voix céleste. D'accord, qui parle parce que Rabbeinu, il est rentré dans la grotte.
C'est les Malachim.
Donc ils disent comme ça. À celui qui est entré à présent dans cette sainte grotte, béni soit celui qui y vive en paix. Qui est ce tzaddik? C'est celui qui ne tient nullement compte de son propre honneur, mais bien au contraire, qui est prêt à descendre et à se laisser tomber dans la boue et dans la fange en l'honneur d'Hachem et de sa shrina, dont toutes les actions ne visent qu'à relever la shrina hors de la poussière. Qui est ce tzaddik? C'est celui qui connaît le remède de la fille du roi, qui œuvre avec elle et qui adresse à son cœur des paroles de consolation. C'est celui qui guérit toutes ses douleurs et les graves afflictions dont elle souffre, qui panse ses plaies, ses déchirures et ses blessures par l'élixir de la vie éternelle. Qui est ce tzaddik? C'est celui qui n'a pas pitié de sa délicatesse, alors que ses mains sont souillées et salies par le sang et le chorion du placenta afin de déclarer pure l'épouse pour son mari. Qui est ce tzaddik? C'est celui qui creuse et qui trouve le puits aux eaux jaillissantes en le nettoyant de toutes ses taches et de toutes ses saletés. Qui est ce tzaddik? C'est la voix céleste qui dit tout ça. C'est celui qui répand sur elle de puissants parfums et de bonnes odeurs afin de ranimer par eux son âme, celle de la fille du roi, dans son intériorité, de la parer des 24 bijoux de la reine, de la ramener auprès de son époux et de la rendre chère à celui-ci. Notre maître répondit en prenant la parole alors que sa voix allait en s'adoucissant. Ou bien on peut dire qu'elle était accompagnée de senteurs parfumées, en étant entendue dans tous les mondes, en haut et en bas. Donc là maintenant, c'est Rabbeinu qui va parler. Donc il dit comme ça. « C'est moi qui suis entré et qui ai pénétré dans cette sainte grotte. » Je m'appelle Nachman ben Simcha et Feiga. Je viens de la sainte semence de notre enseignant et maître Israël Baal Shem Tov, qu'il soit rappelé pour le bien. Lui-même issu de la sainte semence de David, le roi Mashiach. Je suis ce tzaddik parce que j'unifie les cieux et la terre. Je suis ce tzaddik parce que je m'affaire à la consolation d'Hachem et de sa shrina, qui est l'Assemblée d'Israël, la Sainte Colombe parfaite. Je suis le médecin de la fille du suprême roi saint. Je suis ce tzaddik parce que je possède la force dans mes mains d'extraire d'elle les flèches imbibées de poison mortel que le serpent originel malfaisant lui a injectées et de les renvoyer sur sa tête en les lançant dans la gueule du serpent originel malfaisant, où elles resteront jusqu'au temps où toute la force sacrée qui l'a engloutie sera éjectée de ses entrailles. Je suis ce tzaddik parce que je m'occupe de renforcer les faibles, ceux que le serpent originel malfaisant a frappés. Ils n'ont pas un seul membre intact, depuis la plante de leurs pieds jusqu'au sommet de leur crâne, alors que leur cœur demeure insensible pour faire tchouva, parce qu'ils n'ont pas la force de faire une tchouva parfaite. Moi, je m'affaire à introduire intelligence et discernement dans les cavités de leur cœur et de les réjouir pour que leur cœur se renforce à revenir à une tchouva parfaite devant le maître de tous les mondes. Et je les dirige sur le droit chemin, dans la joie et l'allégresse, afin d'accomplir les commandements de la Sainte Torah avec entrain et de bon cœur, comblé de tout bienfait. Je suis ce tzaddik parce que toutes les créatures ont été soumises à ma condition, car c'est moi qui ai servi de garant devant Hachem avant que les mondes n'aient été créés en faveur de toutes les âmes de la Sainte Semence d'Israël. J'ai pris sur moi de les ramener à la fin des temps, au service de leur maître qui a fait les cieux, la terre et toute leur armée en 6 jours et qui a pris pour dessein de les renouveler. Alors que Rabbi Shimon Bar Yochai se leva et posa une question. Qui va chanter Miron? Notre maître répondit, moi je vais chanter à Niron. C'est alors que se dévoila la gloire du Saint béni soit-il, accompagnée par toutes les âmes des tzadikim. Les saints supérieurs, qu'il s'agisse de ceux qui étaient déjà venus ici-bas ou de ceux qui étaient destinés à venir dans ce monde, tous vinrent observer et souhaitèrent entendre le Saint Nigoun. C'est une mélodie, le Nigoun. Le Saint Nigoun qui sortirait de la harpe de notre Saint Maître. La voix fut émise et heurta tous les firmaments. Elle fut entendue dans tous les mondes, supérieurs et inférieurs. Ce tzaddik, c'est Nachman, le fils de Simcha et de Feige. Mon saint fils chéri, le serviteur du Saint béni soit-il, mon unique œil de miséricorde. C'est lui le guerrier parmi les guerriers, sur lequel repose le souffle de Dieu saint, dont le souffle est un souffle éternel. Et c'est sur lui qui a été dit, mon fils premier Israël. Israël, c'est sur toi que je me glorifie. C'est pour lui que les cieux, la terre et toutes leurs armées subsistent. Le roi désire l'honorer. C'est à lui qu'est accordée la permission d'entonner le chant et de jouer le nigoun suprême sacré qui réjouit Dieu et les hommes. C'est alors que notre saint maître prit dans ses mains sa harpe qui possède 72 cordes. Il commença à entonner le chant. Et le nigoun, ainsi que la louange qui inclut les 10 sortes de mélodies, avec lequel le roi David, que la paix soit sur lui, composa le livre des Tehillim. Il s'agit du chant qui retentira dans le futur. Dès le début de ce saint nigoun, furent exprimées avec délices toutes les saintes réparations que réalisèrent les tzadikim de ce monde, durant leur vie et à leur mort, qu'il s'agisse de ceux qui moururent dans leur lit, ou de ceux qui se livrèrent eux-mêmes à la mort en Kiddush Hashem, depuis la génération d'Adam Harishon jusqu'à sa génération. Et en se basant sur cela, tu comprendras un peu ce qu'a écrit Rabbi Nathan, Zichrono Levracha, dans ses saintes lettres, la lettre numéro 350, à savoir que tout cela ne représente qu'une chose mineure pour lui, de mémoire bénie. Ces réparations constituent la guérison de la fille du roi saint. Lorsque notre saint maître se mit à détailler les saintes réparations qu'il réalisa et qu'il effectua, son visage brilla d'une lumière suprême. Et tous les tzadikim formirent une ronde. Il y eut une joie et une allégresse immense dans tous les mondes. Tous rendirent grâce à Dieu et s'écrièrent « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui ne t'a pas privé de libérateur. » Heureux qui a engendré un fils comme celui-ci. Et les trois, lorsqu'ils perçurent ce nigoun, un délice faisant allusion à la précieuse et suprême réparation qui fut dévoilée par son intermédiaire en se rassemblant auprès de lui, le tzaddik qui donne vie au monde lors des jours de Rosh Hashanah, alors qu'ils n'eurent plus de force en eux. Notre saint maître, le fleuve jaillissant, source de sagesse, que son souvenir nous protège, amen, de concert avec Rabbi Shimon Bar Yochai, que son souvenir nous protège, amen, s'attachèrent dans un seul et même lien et dans un puissant amour, conformément au secret de « nous formons le principe de tout ». Et au secret, la chose dépend de notre affection, qui est mentionnée dans la Sainte Assemblée et rapportée dans le Likutei Moharan, tome 1, Torah 60, Rabbi Shimon ouvrit, ainsi que dans la Torah numéro 61, Rabbi Shimon se réjouit, faut s'y référer. Et ils fusionnèrent dans l'infini, béni soit-il, conformément au secret de l'amour inscrit dans l'esprit, c'est-à-dire l'amour qui existait entre Israël et son Père Céleste avant la création, comme il est expliqué dans la Torah intitulée « Qui est l'homme qui désire la vie ?» la Torah 33 du Likutei Moharan. S'y référer là aussi. Plus encore, lorsque l'on s'inclut en lui, béni soit-il, à ce niveau après la création, ceci exprime une perfection supplémentaire. Aussitôt, Hachem leur ouvrit tous les trésors cachés du roi. Et ils virent, donc Rabbi Shimon et Rabbeinu, et ils virent ce qu'ils virent. Aucun homme, aucun ange, ni séraphin, depuis le jour où le désir se manifesta devant Hachem, de créer les cieux et la terre jusqu'à maintenant, ne contempla autant qu'eux à ce moment. Après cela, un son mélancolique se fit entendre des cordes de la harpe pour un instant. Rabbi Shimon Bar Yochai, que son mérite nous protège, amen, demanda à notre saint maître, « Ce que nous avons entendu tout à coup, ce son mélancolique, de quoi s'agit-il ?» Notre saint maître lui déclara, « Ce son que tu as entendu est le bêlement de ceux du troupeau tendre et jeune. Leur berger s'est dissimulé vis-à-vis d'eux pour un court instant et ils errent dans le champ et dans les montagnes. Ils ont besoin d'eau pour étancher leur soif, mais ils n'en ont pas trouvé. Et ils sont partis en se dispersant dans le désert parmi les bêtes sauvages qui se trouvent là-bas, les loups et les panthères, qui les ont fait beaucoup souffrir. Certains furent dévorés, d'autres eurent leurs os brisés. Mais un petit nombre d'entre eux parvinrent à s'enfuir et ils atteignirent leur abri. Cependant, ils ne trouvèrent pas le repos. C'est à ce sujet qu'ils implorent avec un cœur brisé. « Berger, berger fidèle, jusqu'à quand tu te dissimuleras de nous? Jusqu'à quand tu nous abandonneras-tu ?» À ce moment-là, Rabbi Nachman et Rabbi Shimon s'accordèrent entre eux pour que, lors des talons du Mashiach, quand se renforcera à Dieu, que Dieu nous en préserve, la Sitra Achara, donc les forces de l'autre côté, et qu'elle s'étendra en ne permettant pas de venir et de se rassembler sur sa sainte sépulture à Ouman, au jour saint de Rosh Hashanah, l'on s'efforce de rassembler le troupeau des saints qui s'abritent sous son ombre, l'ombre de sainteté, afin d'accomplir à leur égard la mitzvah d'Arnasat Orchim, l'hospitalité, avec leur permission, en les accueillant avec un visage lumineux pour manger, boire, séjourner et réaliser tout ce dont ils ont besoin. Que les prières et les larmes de tout le peuple saint, etc., en particulier les prières, les requêtes et les larmes, soient également acceptées et qu'on les amène auprès de ce fleuve dont les eaux jaillissent et ne s'interrompent jamais de couler, la source de la sainte sagesse, jusqu'à ce qu'ils reviennent et nous prennent en pitié, qu'ils nous réjouissent autant que les jours où tu nous as affligés. Et les yeux dans les yeux, nous verrons le retour de Dieu à Tzion. Amen, que telle soit sa volonté. Le son de la mélodie devint plus fort et s'adoucit. Et il eut alors une joie et une grande et puissante allégresse. Notre saint maître, Rabbi Nachman, et le Rajbi dansèrent ensemble, ainsi que le roi Mashiach, et tous les sept bergers avec eux, et tous les autres sadikim après eux, toute cette nuit-là. C'est alors que furent achevés les cieux, la terre et toutes leurs armées, comme ils seront rectifiés à l'époque où viendra le roi Mashiach. Une joie comme celle-là ne se présenta pas devant Hachem depuis le jour où le temple fut détruit. Puisse-t-il être construit rapidement de nos jours. Amen. Lorsque le matin brilla et que leurs prières furent terminées, notre saint maître demanda à reprendre sa route. Tous vinrent avec lui le raccompagner. Chacun lui donna des cadeaux et des présents. Lui offrit un présent à remettre à ceux qui le saluent. Nos paroles s'étendent jusque-là, conformément au secret de ce propos sacré. Sache et crois que tout ce que j'ai mis par écrit pour toi jusqu'ici ne représente qu'une fraction infinitimale, même pas le volume d'une goutte d'eau extraite de l'océan, de ce qui arriva alors durant cette nuit-là, qui brilla autant que le jour. Si toutes les mers étaient d'encre, et que toutes les marécages contenant des roseaux étaient des plumes, que tous les habitants de la terre étaient des scribes, que toutes les langues faisaient des louanges, etc., ils n'auraient pas la force d'écrire ou de raconter ne serait-ce que le milliardième des secrets imposants et gardés que ce sujet contient. Heureux sommes-nous que notre part est belle, que notre sort est agréable, des milliers de fois pour avoir goûté, quoi qu'il en soit, à l'extrémité du bâton plus d'eau que le miel et que le suc des rayons. Amen.
Amen. Amen.
Voilà, ça c'est... elle est très belle, c'est toute la lettre de Rabbi, toute vous l'histoire.
L'avez,
vous l'avez... Oui, bien sûr. Vous l'avez dans le Sirot Haran, d'accord, à la fin, et Chifre Haran, dans ce livre. Je crois que l'avait amené la semaine dernière.
Ça veut dire que
les éloges du Tzadik.
Rabbi Shimon et lui, ils font qu'un?
Non, pas du tout.
Il y a un moment, il a dit, ils ont fusionné.
Ils ont fusionné ensemble, mais je peux pas dire. C'est pas marqué que c'était la même. Non, il y a pas marqué comme ça.
Ils ont dansé un moment avec.
Ils ont fusionné, ils se sont.
Tu vois? Ni lui, ni Rabbi Shimon le Machia. Ils ont dansé les trois.
Donc.
Et au fait, lui, c'est on décrit Rabbi Nachman dans la lettre. Tout ce qu'il a dit l'ange, tout ce qu'il a dit le malar ou la.
La voix céleste.
Voilà, la voix céleste, elle a dit tout ce qu'il est. Maintenant, j'ai appris qu'il était.
Voilà.
Je vois lui dans ce monde, voilà.
Donc ce soir, quand tu vas danser pour lui.
Moi, je danse toujours pour
alors,
lui.
Alors, tu vas être.
La danse, pour moi, c'est la joie. Et moi, ce que j'ai pas compris, c'est comment il y a autant de joie qu'on parle de lui et tout. Et quand tu vas là-bas, il y a une tristesse, une remarque.
Où ça, là-bas?
Sur le Quai Vert.
Ah non, il y a que de la joie sur le Quai Vert.
Moi, j'étais triste.
Tu as été chez Rabbi Nachman?
Bien sûr.
Parce que c'était la première.
Et attends, et pourquoi tu as vu de la tristesse?
J'ai trouvé que tout, dès que j'ai atterri là-bas, c'était triste, ça faisait peur. On était chez Rabbi Levi, Trac de Bartichev, c'était avant. Hein,
il y a combien de temps?
Ah, j'étais en moins 10 ans.
Plus de 10 ans.
Je crois qu'il y avait le premier hôtel qui venait d'être construit, c'était des Rabat, un couple qui venait d'ouvrir. J'étais la première cliente.
Non, c'est marrant parce que moi, j'étais là-bas il y a plus de 30 ans, j'ai pas vu de la tristesse. Et pourtant, il n'y avait pas du tout de conditions.
Non,
pour le
les gens étaient... Au fait, c'est pas la tristesse. Les gens
gens, écoute, c'est comme quand tu vas au Kotel. Oui. Les gens, ils déversent toute leur amertume. Tu vas chez le tzadik, tu sais que voilà, tu dois tout lui donner parce qu'il va tout te réparer.
En particulier, je parle.
Mm-hmm. Pourquoi?
C'est pour ça que ça convient
attends,
pas avec sa méchante.
Attends, pourquoi? Non, mais.
Non, je t'expliquais. Le tzadik, en général, quand tu vas dans l'endroit du tzadik, il représente le tzadik.
Nahon.
Quand tu vas chez Rahel Aminou, c'est notre mère. Alors tu viens lui dire, maman, j'ai besoin de ça. C'est notre mère.
Parce
quand
que.
Quand je vais chez tous les tzadikim, il représente. Je vais chez un tzadik, je sais que lui, il est pur, c'est un Kohen, je rentre. J'ai une kedusha en moi parce qu'il est Kohen. Quand je vais chez un autre, celui-là, il est joyeux, c'est la joie. Celui-là, on boit, celui-là, on fait. Chaque tzadik, mais lui, c'est contraire à lui. Quand je
alors,
c'est-à-dire que lui, quand je vois un arma, c'est que de la joie.
Non, non, c'est pas ça. Non, non, je pense
peut-être
véritablement.
Ça que tu voulais pas dire, peut-être
non,
que...
non, je pense véritablement que quand on va chez Rabbeinu, d'accord, d'abord chacun comment il reçoit, mais je pense que l'âme quelque part, d'accord, elle sort toute cette amertume qu'elle a, toutes ces choses qu'elle a, elle a attrapées depuis, tu comprends, depuis depuis qu'elle a été créée, parce qu'on est des Gilgoulim, et elle vient déverser justement tout ça en criant à Rabbeinu. Donne-moi mes pertes. Je veux retrouver toutes mes pertes. Je veux bémettre ma réparation totale. Tu comprends? Et donc, c'est tu viens et t'exprimes cette amertume que tu as.
Parce que moi, c'est tellement aujourd'hui, c'est tellement la joie, tellement la joie, que c'est tellement peut-être.
Attends, le samedi soir, vous avez dansé, Motsé Shabbat? Alors, ça.
Ceux qui n'étaient pas mariés.
Alors,
je vous explique,
cette joie qu'il y a le samedi soir, elle est unique.
Personne. C'est-à-dire qu'il y avait toutes les mariées, on les a levées, nous a mis l'orchestre en arabe, on les a levées, il y avait une mousse au chocolat.
Quand Lila, elle vient, on est obligé d'amener à la Katsumatine.
Une copine, elle avait un louis d'or, on l'a enlevé. On a fait une fête inoubliable. Inoubliable. Ah, la Seouda, maintenant, nous, on est partis la première fois, on va vous faire rire un peu, mais c'est de Rabbi Nachman. On était une trentaine de femmes. Les 30, on n'était jamais partis. Imagine-toi, il n'y a même pas une qui va guider l'autre, rien. On arrive comme ça, c'était un voyage, c'est ni gain ni rien. C'était avec le billet 270 €, pour vous dire, je me rappelle.
Ah, oui.
Pour vous dire que c'est rien, c'est-à-dire on arrive, mais l'hôtel, c'était le premier hôtel.
C'était dans l'auberge, je sais où tu étais.
C'était un couple de Nachman, de Chabad, qui habitait en Israël, qui se sont donné un petit couple de jeunes.
Non, je crois que tu parles de... Non, je sais de qui tu parles. Ils faisaient l'Arnasat Ohrim là-bas.
Ah non, c'est un petit hôtel, il était tout,
tout
propre.
Tout
mais
simple.
Mais l'entrée, truc, mais tout simple. Les chambres, on pouvait dormir à 10 dans la chambre. Nous, on a dormi à 2.
Comme nous, au début, quand on a été.
Alors, on arrive et tout, les femmes, les filles, elles ouvrent les valises. Un papier toilette, l'autre le sopal, un tout ça. Nous, on allait, on ne savait pas. Vraiment, on nous a dit à rien. L'autre, la truc de couchage, vraiment. Ma copine, elle a amené les crèmes, les javel. Bon, bref. On arrive là-bas. Et j'étais assise à côté d'une copine à moi qui me dit, Gila, samedi, la vérité, j'ai envie de faire une séouda de ma mère. j'ai une valise de bouffe parce que vraiment, je vais faire la séouda de ma mère là-bas. J'ai très bien fait. La vérité, on n'a pas pensé que Dieu me garde. À l'époque, j'aimais mes parents. Que Dieu me garde, c'est pour ta maman. On va faire une belle séouda, ne t'inquiète pas, Guilla. On arrive là-bas, on va chez Rabbi Levi Israël de Bartichev. Déjà, le gars qui nous amène, on arrive là-bas, on rentre. Il était 1h du matin, ça fait peur dans un cimetière. Tu sais, on entendait, je sais pas. C'est... Et mes copines, Guilla, on a peur. Moi aussi, j'ai peur, mais attrapez-vous. Attrapez-vous, on s'attrape, on avance. On avance, une amie dit qu'il a, j'ai faim, l'autre elle me dit que j'ai commencé, on vient d'arriver, mais non, on a organisé, c'est moi qui ai organisé aussi avec lui, mais j'ai dit bon, qu'est-ce qu'on va chez un sadique, il va nous aider, c'est pas un problème. Une amie dit j'ai faim, mais c'est vrai, on a très faim, on n'a rien mangé depuis le matin et tout, et je me suis rappelé, l'autre elle m'a dit là, la séouda dans la valise, j'appelle, elle s'appelle Lisette, je lui dis Lisette, tu vas faire la plus belle séouda de ta vie. Elle me dit quoi? Je dis, tu sais, la séouda, elle est bien quand les gens, ils ont faim. Pas qu'on verra ça. Parce que samedi, on a de quoi manger. Samedi, on a de quoi manger. Après, la séouda, je lui dis, on est bourré, personne va manger. Que là, tout le monde doit faire des prières. Ouvre ta valise. Les boulettes, la salade, cul. Tout le Shabbat, il est devant la valise. Je dis, attends. Attends, on va mettre, on a mis des pierres, on a rangé, on s'est assis, on a mangé, on a chanté. C'est des tris, quand ils sont arrivés, ils sont sortis, tout le monde, personne ne voulait l'aider pour laver. J'attendais, ramasser des gens, nettoyer. On lave le quai vert et on sort. Et on a fait une belle séouda. Bon, on a fait un voyage de rêve.
Bon, très cher.
Moi, je suis avec toi, là.
Non, mais aujourd'hui, même si tu veux, Guilla, il n'y aura pas parce qu'il n'y a plus cet hôtel. Ils l'ont fermé.
C'est pas grave, c'était très bien.
C'est magnifique.
Qui nous ont fait, écoute, ils nous ont bien reçus. La vérité, ils nous ont bien reçus. On a fait, j'ai ramassé pour toutes mes copines. On leur a dit, écoutez, nous, on est arrivés, ils n'ont rien coûté le billet. On va faire tout ce que Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'on a, celui, chacun met ce qu'il veut dans cette enveloppe, on va donner à ce couple-là qui est venu nous accueillir. Eh bien, ils étaient très contents, on a fait une très belle séouda, mais moi j'ai ramassé l'argent, je vais vous expliquer comment j'ai ramassé l'argent. Je me suis déguisée en Moldave, j'ai mis le foulard, j'ai mis papier aluminium sur les dents, j'ai fait le petit panier, le jogging en velours, j'étais dans toutes les chambres. Je dis, les filles, vous avez passé un beau séjour, tout était bien, on a kiffé sans limite, il n'y a pas de prix dans ce qu'on a fait, il n'y a pas de prix dans la simra qu'on a eue. Il n'y a pas de prix. Chacun met ce qu'il veut. Même 10 euros, je m'en fous, je ne veux pas savoir. Je ne veux même pas voir ce que vous mettez. Tout le monde était content. Bien sûr, Guilla, on met. On l'a ramassé une très belle enveloppe. Ils étaient très contents. J'ai envie d'aller
lire. Alors, Guilla, elle a gagné deux fois le voyage à Ouman.
Incroyable.
Mon mari, il avait fait la galette des rois. Deux fois, deux années
de deux fois, il a dit, celui qui vient, il va aller.
C'est moi qui paye le billet.
Si Dieu veut, tu vas venir. Tu vas venir, Bezrat Hashem.
Et moi, tu vois, c'est mon anniversaire. Il ne va pas faire à Ben Arman. Il a beaucoup de choses. Mon général, pardon. Le 21.
C'est
la date.
C'est l'été.
C'est la date où on part en plus.
C'est la date,
donc dis là, tu n'as pas où te sauver. En tout cas, ce qui est certain, c'est que là, on a vu à travers cette lettre Bémet la grandeur de Rabbeinu. On a vu Bémet, ça veut dire que comme il a répondu quelque part à toutes les questions. Sans le tzaddik.
Le jour où on a été sans savoir, on connaissait pas, on est parti comme ça. C'était la Iloula de la maman, de Fegui.
Ah ouais.
Quand on est arrivé, on est parti dans la Iloula en même temps. On a dormi au Baal Shem Tov. On a mangé notre soupe chaude et tout. On a fait... Mais on n'a pas calculé, on ne connaissait même pas la date. C'est-à-dire, on a dit, ce week-end, les filles ont fait comme ça, on est parti. Et on arrive, ils nous disent, c'est la Iloula. On est rentré avec des hommes, ils n'ont pas voulu qu'on rentre. Ils m'ont dit, ah non, madame, il y a beaucoup de gens. Je dis, il n'y a pas de problème, c'est vous qui allez sortir. Nous, les femmes, on arrive de loin. Ils sont sortis, on est rentrés pour la Iloula. Alors, ils n'ont pas voulu qu'on rentre. On arrive de Paris. Non.
Guilla est arrivé. Il n'y a pas de problème. Il n'y a que deux solutions. Vous allez sortir.
Sortez tous. On rentre.
D'accord.
Je pars
avec toi.
Il
s'est rattaché. J'adore Rabbi Nachman.
Moi, je pars avec toi. Le quoi qu'il est.
C'est derrière. Vous sortez tous.
Bon, Bezrat Hashem.
Bonne réponse, franchement.
Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Vous sortez tous et nous
on rentre. Non, parce qu'on voulait rentrer, non, et tout ça, ils se sont cachés, fermés, ils ne voulaient pas regarder les femmes, je comprends. Il n'y a pas de problème, je respecte tout le monde. Tout le monde, personne ne voulait de nous, j'ai aucun problème. J'ai dit, les filles, sortez. Messieurs, tout le monde dehors, on rentre. On est rentré, on a prié, on a fait nos séoudas, on a levé les
encore une séouda.
Ah, toujours les séoudas, on en avait plein.
plein de valises. Bon,
donc, donc on voit, donc on voit Bémet que le tzaddik quand il te parle, d'accord, et qu'il te dit quelque chose, tu vois que c'est une vérité. Donc si Rabbeinu il vient, il te dit, il n'y a pas de tshuva possible, d'accord, il n'y a pas de réparation sans passer par moi. C'est parce que lui, toute sa venue dans ce monde, c'est ça.
Ça
c'est réparer.
Par lui.
S'attacher à Rabbeinu, s'attacher à Rabbeinu et savoir c'est que c'est lui le tzaddik. Tu suis ses etzot, tu t'attaches au tzaddik.
Mais c'est-à-dire toutes les personnes qui sont parties de ce monde et qui ne s'étaient pas attachées, mais qui ont fait toutes les mitzvot et qui ont fait tchouva dans leur vie, et elles n'ont pas vraiment réparé leur âme.
Non. À partir du moment où Rabbeinu, il est venu dans ce
monde. Non, il t'a dit, il faut passer par lui. Il faut que tu sois.
À partir du moment où il est venu dans ce monde,
que j'ai compris dans la lettre, en fait, Rabbeinu, c'est le psychologue des Neshamot, mais en passant par la joie. Il les ramène dans la Torah, il essaye de les. Avec amour et tout. Parce que tu sais, dans la vie, on a tous des soucis, on n'est tous pas bien. Il faut trouver juste la bonne personne.
Moi, je veux bien, moi, ça m'est égal, je suis là, je me suis attachée, c'est pas grave. Mais c'est que tous les gens. Non, mais c'est-à-dire tous les gens qui travaillent sur eux, mais qui ont Rabbi Shimon ou Rabbi Meir Balanes, et qui
sont
et qui
ne
connaissent
rabbinis.
Pas forcément. Bah,
mais ne t'inquiète pas, attends. T'inquiète pas, le tzaddik, regarde, non, mais c'est pas ça, non, le tzaddik. Il sait, parce que nous, on croit, c'est nous, on a été chez Rabbeinu. C'est le tzaddik, en réalité, qui se révèle à toi. Tu comprends ? Il arrive un moment dans ta vie où c'est le tzaddik qui rentre chez toi par là. Tu comprends ? Par une porte, par un livre, par une discussion, par ce que tu veux. Et ben, c'est comme ça que Rabbeinu, il a décidé.
Bah oui, moi, je l'avais pas lu, je connaissais pas.
C'est tout.
Il a choisi.
Tu peux pas, mais c'est ça ce qu'il te dit. Rabbeinu, il te dit, c'est pas la peine de parler. Tu donnes un livre et moi, je m'en occupe.
Yael.
Tu comprends? D'où la façade. Les filles, attendez, les filles.
J'adore la lettre.
Elle est belle. Regarde, il n'y a pas.
Il m'a dit, c'est quoi qui, le Tikkun HaKlalit? Je dis, ben ouais, je suis un Tikkun HaKlalit, je vais donner les livres, quoi.
J'ai connu le Tikkun HaKlalit.
Les filles, Rabbeinu, il a dit comme ça, d'abord pour répondre à ta question. Il ne faut pas se dire, oh là là, mais alors comment l'autre, il est parti de ce monde, il n'a pas connu Rabbeinu. D'abord une chose, d'accord? Aujourd'hui, le nom de Rabbi Nachman, il est diffusé dans le monde entier. Mais il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 50 ans, mais on ne savait pas.
Bah oui.
Bon, donc ce n'est pas de notre faute non plus. C'est le tzaddik. Il y a Bichlal. Il y a des très longtemps, Bichlal. Le nom du tzaddik, il était complètement caché. On ne pouvait même pas aller sur sa sépulture, tu comprends? Donc, déjà, il faut comprendre que c'est le tzaddik qui fait un travail. C'est lui qui vient à toi. Donc, si maintenant une personne... Ok, elle n'a pas eu. Ben, elle n'a pas eu, c'est pas grave, mais ça, c'est les comptes d'Hachem et du tzaddik. Nous, on ne peut pas rentrer là-dedans. Ce qu'il y a, par contre, c'est que si une personne, elle connaît Rabbeinu, la pauvre, et qu'elle s'oppose au tzaddik, là, Bémet, que c'est problématique. Maintenant, comment ramener une personne à Rabbeinu? Nous, on n'a pas. C'est pas nous qui ramenons. Rabbeinu, il nous a donné. Rabbeinu, il a donné une etza. D'accord? Et toute cette etza, on la voit, ça a été le travail de Rabbi Israël tout au long de sa vie. Si vous regardez bien, Rabbi Israël, d'accord, il a ramené bien évidemment des gens, on peut même pas imaginer. Mais Rabbi Israël, c'était quoi son travail? Tout son ignan à Rabbi Israël, c'était les livres. Parce que Rabbi Israël, il a compris la etza de Rabbeinu. Rabbeinu, il a dit, c'est pas la peine de parler, tu donnes un livre, tu mets même un livre dans une bibliothèque. Ça veut dire que même tu vas chez quelqu'un, tu sais, style, tu laisses traîner un livre, ou dans un hôpital, ou l'homme échané, là où tu vas, tu poses un livre, d'accord ? Écoute, tu poses un livre, et automatiquement, d'accord, le tzaddik, il va faire son travail. Donc, n'importe quel livre de Rabbeinu, ne rentre pas dans les chochmot. Tu as un livre, ne réfléchis pas, tu le donnes. Rabbeinu, il va faire son travail. Tu comprends ce que je veux te dire? Nous, on n'est pas en train de dire, attends, qu'est-ce que je vais faire? Tous les livres de Rabbeinu, je te promets, Kiren, je te promets, tous les livres de Rabbeinu, parce que Rabbeinu, tu veux que je te dise quelque chose? Des fois, tu lis un texte, moi, ça ne m'a pas touché. L'autre, quoi, ça l'a fait? Tu dis, mais c'est bizarre, on a lu le même texte. Rabbeinu, il s'attache à ta neshama. Il va rentrer dans ta neshama et il sait exactement comment il va faire que ces paroles qui n'ont pas retenti chez l'autre, elles vont retentir chez toi.
Je sais, maintenant j'ai compris.
T'as compris?
Aujourd'hui. Non, c'est pas que j'aime pas les jeunes spécialement. Non, c'est bien.
Moi, j'adore mes Shivat Nefesh.
Le vraiment très loin.
Non, c'est pas un psychologue.
Le Likouté de Philote, c'est l'hôpital du monde. Non, c'est ce qui te permet d'avoir un cœur juif. Mais Shivat Nefesh, régénération.
D'abord, Neshama, quand t'as un problème.
Régénération.
Quand t'as un problème.
Mais c'est le livre. Il y a là, ici. C'est un livre où il y a les têtes de rabbin.
Mais répare, pour réparer.
Alors, juste, attendez. Juste pour terminer, je voudrais finir de lire. Les filles, on termine ce qu'il y a écrit, Raval, parce que sinon... Donc il a dit comme ça qu'on doit préserver, d'accord, beaucoup son intellect et sa pensée afin de ne laisser pénétrer dans sa pensée aucune idée extérieure, ni aucune sagesse extérieure. Cette démarche constitue principalement le repentir et la réparation pour toutes les fautes. Et lorsque l'homme se renforce pour chasser toutes les pensées extérieures de son esprit... et de son intellect, car en fait, l'intellect représente l'âme. Et quand il sanctifie son intellect, c'est-à-dire son âme, grâce à cela, il élève et ramène tout à sa racine, et cela constitue la base du repentir. Ça veut dire que Bémet, Rabbeinu, ici, il vient, il te dit comme ça, il te dit, en réalité, la base de la tchouva, c'est quoi? C'est de ne pas laisser rentrer dans ta pensée, d'accord, dans ta tête et dans ton âme. Laisser rentrer, d'accord, ça veut dire des choses qui ne sont pas des choses de Gdoucha, des choses qui sont des sagesses extérieures. Quand une personne, elle comprend ça, alors automatiquement, elle va toujours faire attention à ce qu'elle fait rentrer en elle et elle n'aura pas, et elle comprend que ça, c'est la base de la Chazara Bitshuva. Donc, elle comprend que quoi? Elle va être forte. Elle va pas se laisser raconter des salades. Non, mais aujourd'hui, il faut savoir telle chose. Aujourd'hui, il faut savoir cette chose. Non, quand tu connais la Torah... Quand tu connais la Torah, Bémet, mais tu connais tout. Donc pourquoi tu as besoin maintenant de rentrer des choses extérieures? Dans la Torah, tu as tout. Tout ce que tu veux. Donc un homme Bémet qui veut, ça c'est une exa, ça veut dire du tzadik, qui vient, il te dit, tu dois préserver ton âme. Parce que quand tu fais rentrer n'importe quoi en toi, automatiquement ton âme, d'accord, c'est comme si je te dis, elle éclaire de moins en moins, tu l'obstrues. Tu obstrues ton âme jusqu'à qu'à un moment, nous, on voit des gens, les pauvres, justement, ils sont tellement loin, ils sont tellement éloignés qu'ils ne savent plus rien, ces gens-là. Donc, nous, on doit faire... La réparation, c'est quoi? C'est s'éloigner de toutes ces choses, d'accord? Et rentrer plus de Torah en nous. Combien que tu vas rentrer de Torah? Combien que tu vas rentrer de Tfilot? Combien que tu vas, justement, t'éloigner de toutes ces choses extérieures? Et plus tu vas donner à ton âme la possibilité, Bémet, d'éclairer complètement tout ton être. Bezrat Hashem, alors on a eu le mérite en ce jour que dans quelques heures c'est Bezrat Hashem, l'anniversaire de Rabbeinu, on a eu le mérite Bémet, d'étudier de ses enseignements. Comme elle dit Gila, nous toutes on a compris la grandeur, qui est Rabbi Nachman à travers cette visite qu'il a fait dans la grotte de Rabbi Shimon Bar Yochai, Bezrat Hashem. Qu'on ait le mérite d'une manière simple, sans se poser des questions, être capable de dire écoute, il y a un tzaddik, il est venu, il a dit c'est moi le tzaddik. Pourquoi moi maintenant je vais venir discuter là-dessus? Pourquoi faire? Qu'est-ce que j'ai à gagner? Il est venu, c'est des épaules très larges, il a signé, il a fait une promesse. Où tu veux croire et tu t'attaches et Bezrat Hashem, tu verras des grandes choses. Où tu veux rester à dire non mais peut-être machin. Continue de toutes les façons. C'est Rabbeinu qui fait le travail. Donc même une personne, quand des fois elle dit non mais comment? Laisse, c'est son chemin. Ça fait partie de son chemin. C'est pas la peine de dire, mais il comprend rien, elle comprend rien, tu te bagarres pas. Aujourd'hui, c'est ce que tu as, c'est bien. Demain, encore autre chose et encore autre chose. Amen, Kenny Ratson. Merci Hachem, merci Rabbeinu.